J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuses sociétés intellectuelles où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.
Voilà, vous venez d'entendre un extrait de la voix de Camus. Donc, on plonge directement dans le sujet. Hein. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire, l'écoute de l'émission Chronique Hebdo. Et donc, le texte qu'on vient d'entendre de Camus a été un discours qu'il a fait devant les réfugiés espagnols qui ont fui le franquisme. Et ça date du 22 janvier 1958. Donc voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans Le Monde Libertaire, nous recevons Lou Marin qui va nous parler donc d'Albert Camus, mais aussi donc de son livre Albert Camus et les Libertaires, et qui est un ensemble d'écrits rassemblés par lui sur Camus et les écrits, les correspondances qu'il a pu avoir avec les gens, avec les anarchistes, quoi, tout simplement. Et pour présenter un petit peu Lou Marin, on va rappeler qu'il est tout d'abord un anarchiste hein, et militant écologiste antinucléaire. On pourra donc du coup évoquer avec lui la question de Fukushima et cet anniversaire, hein, ce malheureux anniversaire. Donc le nucléaire et c'est la situation catastrophique en France hein, puisque le lobby nucléaire fait diablement sa loi. Et pour Lou Marin, on va signaler pour lui qu'il s'inscrit dans un mouvement anarchiste de non-violence et qui préconise l'action directe non violente. Actuellement, il est installé en France à Marseille et participe aussi au CIRA, le Centre international de recherche sur l'anarchie. Et si ça va nous permettre justement de faire des petits allers-retours dans l'histoire, puisque si on revient un petit peu au mouvement antinucléaire des années 72, alors qu'émergent donc ces groupes non violents, émergent aussi des groupes armés comme Fraction Rouge, des groupuscules communistes et marxistes. Mais ces groupes non violents ont quand même beaucoup de popularité. Et son groupe justement va reprendre un journal qui existait en France. Alors je le dirai pas en allemand parce que je sais pas parler l'allemand, mais il se nomme en français pour une société sans domination et ni violence. Et c'est une reprise d'un journal qui existait en France donc entre 65 et 74, qui avait été initié par des gens que les lecteurs du Monde Libertaire peuvent connaître. Il s'agit de Anita et André Bernard, et puis certainement d'autres, qui se nommaient Anarchie et non-violence. Donc, ce mouvement allemand, si j'ai bien compris, a repris ce journal. Et aujourd'hui, bah justement, on va fêter ces 40 ans d'anniversaire. Et ça va nous permettre de montrer de revenir donc à l'époque du Larzac, où les mouvements allemands ont rejoint les mouvements français. On pourra évoquer le Larzac et puis toutes les manifestations antinucléaires de l'époque qui ont mobilisé énormément de gens. Puis on parlera aussi évidemment de Camus et comment Camus s'inscrit dans ce parcours des non-violents. Donc Lou Marin va nous l'expliquer. Et je pense qu'ils ont trouvé dans l'œuvre de Camus de quoi étayer leur théorie. Mais ils disent bien, c'est une interprétation, hein, c'est pas un diktat. Et donc Camus ne s'est, à mon avis, pas revendiqué non-violent, enfin de cette façon-là. On pourra se poser la question, est-il aussi libertaire ? En tous les cas, le livre de Lou Marin montre les nombreux liens qu'il a pu entretenir avec le mouvement anarchiste. Et lorsqu'il écrit « L'homme révolté », il revendiquera même avoir tenté de faire avancer l'idée libertaire. Donc voilà, Lou Marin, Jacques, Gérard, vous pouvez entamer l'émission.
Merci pour cette présentation. Vous êtes bien dans Chronique Hebdo, l'émission habituelle du jeudi, 10h à midi. Et aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, nous avons invité Albert Camus pour commencer, bien sûr, puisque vous l'avez entendu. Nous avons invité très concrètement Lou Marin, qui est un grand amateur, un grand spécialiste, un grand amoureux et un grand technicien de l'œuvre d'Albert Camus, sur lequel il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors, comme il est avec nous dans notre émission d'actualité, on va peut-être procéder à une formule qui est un peu original par rapport à ce qu'on fait quand on a un invité. C'est-à-dire, on ne va pas simplement se centrer sur les ouvrages de Lou Marin et sur Albert Camus, mais on va aussi évoquer ses ouvrages et Albert Camus par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Et c'est vrai, comme le disait Josie tout à l'heure, cette actualité, c'est pas seulement le nucléaire, mais c'est aussi évidemment les discours politiques, c'est aussi la situation assez tragique d'un certain nombre de peuples d'Europe. Et au fond, sur cette actualité, au travers de la vision d'Albert Camus, aurait sûrement déclenché les mêmes réserves, les mêmes critiques que vous avez entendues au début d'émission quand il disait qu'il vivait dans un monde malheureux, il vivait dans un monde dans lequel les élites sont parfaitement inacceptables, sont complètement pervertis et n'ont plus aucun sens des réalités. Et malheureusement, eh bien, un demi-siècle après, je crois qu'on est toujours dans la même situation. Alors, Lou Marin, bonjour, et est-ce que tu veux toi-même te présenter?
Bon, merci pour l'invitation. Le nom du journal qui était évoqué, il s'appelle Graswurzel Revolution.
Oui, parce que tu parles allemand, toi, pas
oui,
comme...
Oui, je suis allemand. J'ai milité les années 80-90 en Allemagne. Je suis venu à Marseille en 2001 parce que, bon, je connais déjà pas mal de gens en France parce que je faisais des études déjà en France sur Camus. Et depuis 2001, je me suis installé à Marseille. Donc, depuis là, j'ai des connaissances et parce que j'ai publié en français aussi sur Camus, j'ai fait déjà pas mal des conférences aussi. J'étais invité par des groupes de fédération anarchiste et d'autres de CNT de faire des conférences sur Camus. Donc, ça c'est une richesse d'expérience. J'ai la possibilité, parce que j'écris toujours pour le journal allemand anarchiste non violente Graswurzel Revolution, ce qui veut dire un peu la révolution d'herbe, on peut dire Grassroots Revolution, il existe une expression anglaise. Donc j'ai la possibilité de comparer un peu la scène libertaire de langue allemande, pas seulement de l'Allemagne, de l'Autriche, de Suisse aussi, et de la scène
de
la France et langue française. Ça, c'est très enrichissant, différent aussi et très intéressant.
Et ça, oui, c'est vrai que c'est peut-être un autre sujet qui mériterait d'être développé, mais puisque tu évoques l'Autriche, l'Allemagne et les pays de langue germanique, est-ce que les mouvements, les associations, tout ce qui peut au fond touché à l'anarchie. Est-ce que ça s'est développé ou c'est resté un petit peu, malheureusement, comme en France, peut-être un peu trop dans les têtes, mais sans se manifester véritablement dans la rue, dans les mouvements de l'ensemble des populations, et donc on a l'impression tout de même que la passivité, puis tout le travail de propagande, de desservelage des États qui a joué en France, est-ce qu'il a joué aussi autant dans les pays germaniques?
Bon, ça dépend de quoi on parle. Quand on parle, par exemple, de courants dont nous avons pratiquement initié un peu au début des années 70, le mouvement écologiste antinucléaire. Bon, c'est une bonne phase. On se réjouit, par exemple, maintenant, quand on fête les 40 ans de journal, on se réjouit, et moi, quand je suis dépassé mes 50 ans, on commence à poser des questions. Qu'est-ce qu'on a atteint dans la vie? Et là, il y avait une grande, un succès, parce que le gouvernement, contre son gré, a décidé à arrêter l'an dernier la construction des centrales, et même va fermer les centrales nucléaires en Allemagne jusqu'à 2022. Ça, c'était la décision. Bon, c'est pas encore sûr. Il faut encore mettre la pression, mais oui, c'est quand même un succès.
Oui, c'est parce que
nous avons, en tant qu'anarchistes non violentes, donné beaucoup de concepts de l'occupation des sites déjà dans les années 70. Puis il y avait une sorte de mythe, une vie exemplaire dans la République de Wendland libre en 1980, qui est devenue une sorte de mythe pour le mouvement antinucléaire, jusqu'à la proposition, quand il y avait un impasse, des confrontations directement devant les centrales nucléaires, la proposition de faire attente aux infrastructures, parce que la stratégie d'action directe non violente s'attaque toujours aux chaînes faibles de la structure. Et la chaîne faible, depuis les années 90, c'était les transports, l'infrastructure, une très haute densité, intensité, qui est nécessaire pour établir le nucléaire, pour le maintenir, était attaqué, et ça a fait des succès. Ça a fait des dommages considérables, et ils ont été contraints, plus ou moins, d'arrêter un jour ou l'autre. Et ça, c'est une chose positive. Ouais. Je dis la chose négative aussi. Oui. Il y a un mouvement ouvrier en Allemagne quasiment inexistant. On n'a pas vraiment une structure de diversifier des syndicats, du syndicalisme.
Oui, puis le principe de la...
en France, c'est tout autre chose, beaucoup plus fort et beaucoup moins complètement. En Allemagne, c'est complètement intégré dans la structure étatique.
En France aussi, tu sais,
on n'a pas réussi jusqu'ici, ni nous, qui est plutôt le courant écologiste, anarchiste, ni les anarcho-syndicalistes, qui existent aussi, de vraiment mettre en pied dedans.
Un vrai mouvement social. Oui. Mais alors, je vais te demander, ce succès, enfin, qui méritera d'être... j'allais dire consolidé par la continuité de l'action des antinucléaires, hein, parce que le discours de Madame Merkel, il peut très bien être comme celui de n'importe quel chef d'État, un discours mensonger, un discours creux. Est-ce que ça a vraiment pénétré les esprits d'une grande partie de la population? Parce que malheureusement, ce qu'on voit en France, je prends l'exemple de Fessenheim, eh bien, toutes les populations autour qui ont été habituées pendant 30 ans à la construction de Fessenheim en Alsace, eh bien, elles sont toutes pro-nucléaires. Et malheureusement, on n'a pas l'impression en France, quand nous on s'est battu, par exemple, à Malville, à Fessenheim, quand on fait des manifestations, je me rappelle à Cherbourg contre la Hague, eh bien, les populations, ou à Nogent-sur-Seine aussi des manifestations, les populations du village, du pays et des alentours ne viennent pas. Ce sont uniquement les mouvements antinucléaires qui agissent. Alors, est-ce qu'en Allemagne, c'est un peu différent?
Oui, c'est différent. Par exemple, bon, quand on est dans une année de Fukushima, je vous donne un exemple. J'ai très de près suivi les médias dominantes en France et en Allemagne pendant l'accident à Fukushima. Et en France, vous avez toujours des émissions, on demande un expert, et puis il se révèle, l'expert est fait partie de Areva, un des grands concernes qui est complètement dépendant des intérêts du concern. Là, vous avez en Allemagne, vous avez c'est le sujet phare du débat public depuis 40 ans. Et ça donne des autres possibilités. Même les médias dominantes, ils ont s'appuyer sur un réseau des experts ou des chercheurs indépendants. Il y avait plein d'institutions au début autogérées, maintenant on peut dire un peu professionnalisées, mais toujours indépendants, qui donnent complètement des analyses différentes que les entreprises concernées et liées aux industries nucléaires. Oui, et ça, ici, c'est seulement un exemple. Le débat est très répandu dans la société.
Oui, puis ça n'est pas seulement la version officielle qui est acceptée. Et ici aussi, en France, on a quand même, Gérard, on a quand même reçu Madame Séné, qui fait partie de la CRIRAD, et où là, il y a quand même une activité antinucléaire, mais qui n'a pas réussi peut-être à prendre à envahir les têtes de la population.
Non, mais il y a, et puis, précision, alors, puisque tu évoquais les médias dernièrement, justement, c'est la chaîne Arte, la chaîne dite franco-allemande, qui fait de l'information et qui a fait extrêmement long. Donc on peut le dire, c'était mardi, il me semble bien, mardi dernier. Hein, donc par rapport à ça, première observation. Alors là aussi, on peut voir, par rapport à la France, la situation, c'est combien, sur cette chaîne Arte, combien de personnes leur regarderont cette chaîne, hein, c'est ça, par rapport aux grandes chaînes public et privé par rapport à la France. Alors là aussi, tu évoquais donc le mouvement antinucléaire. Il y a peut-être aussi des différences par rapport à la France, enfin il y en a de nombreuses, et l'Allemagne, c'est-à-dire la part aussi d'énergie nucléaire, la proportion par rapport à l'ensemble de l'énergie en Allemagne et par rapport à celle de la France. Et deuxièmement aussi, peut-être l'impact, on pourrait dire, l'organisation politique pour l'Allemagne avec les Länder, c'est-à-dire le fait de différences considérables dans la structure, alors que politique, alors qu'en France, je te l'apprends pas, évidemment, extrêmement, une organisation extrêmement centralisée, et là aussi, on peut dire le lobby nucléaire en France et la formation, et aussi l'autre aspect par rapport à l'origine du nucléaire en France, c'est-à-dire la bombe atomique. Hein, c'est-à-dire que nous, souvent dans cette émission, on dit on ne fait pas de séparation entre le civil, le nucléaire civil et le nucléaire militaire, en pensant que c'est la même chose et que le nucléaire au départ a été militaire. Et ça, je crois que c'est important par rapport à la France. Et après, la force que ça a pris en France par rapport au lobby, là aussi, la formation très centralisée et la domination, par exemple, pour la France, de l'école des mines et au travers du ministère de l'Industrie, l'école polytechnique. Donc, il y a eu une importance considérable. Et là aussi, on peut dire que c'est, je pense, des différences significatives entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Allemagne. Alors sur ces points, hein, je pense insister peut-être, puisque on parle de mouvement non-violent, de la non-violence, on en parlera, l'importance du militaire par rapport à sa genèse, justement, pour le militaire civil, pour l'énergie nucléaire civile.
Oui, tout à fait d'accord. Notamment, si je peux ajouter un peu, je pense les dernières années, il y avait une reprise de mouvement antinucléaire en France aussi. Il y avait Bure où il y a cette site de déchets nucléaires, mais aussi des fortes actions non violentes contre les transports. Qui font déjà des actions un peu transnationales, qui sont bien coordonnées. Oui. Ça, c'est vraiment devenu beaucoup plus fort les dernières années. Mmh. Mais au vu du mouvement, ça, je pense, le grand arrêt, et là, on peut pas rentrer trop dedans, mais je veux seulement dire, parce que dans les années 90, il y avait un mouvement de masse en France, anti-nucléaire, et ça s'arrêtait, c'est très important, à Malville. Mm-hmm. Malville en 77, mm-hmm. c'était un arrêt de mouvement en France où il faudrait longtemps pour vraiment se récupérer et faire une nouvelle reprise. Et là, il y a une différence parce que un arrêt comme ça n'était pas le cas en Allemagne. Même quand il y avait aussi une grande répression, notamment 77-78, il y avait une crise. Où il y avait, par exemple, à l'issue de la crise, la fondation du Parti des Verts en Allemagne. Mais on a su, et ça c'est par exemple aussi le mérite de République Wendland Libre en 1980, on a su de donner une alternative au niveau de l'action directe. On a eu d'un côté les luttes devenues de plus en plus d'un côté violent, de l'autre côté une répression devant les centrales où il y avait des confrontations sans issue, aussi sans vainqueur. Et là, on a su de donner une alternative au niveau d'action directe. Et ça, c'était la République Wendland Libre qui était aussi une nouvelle utopie. C'était très utopique. On vivait sur un site où ils ont planifié un grand site de déchets, une vie alternative. On est même sorti de la République fédérale de l'Allemagne et ça a créé une utopie et ça a donné une ère de « il est possible de vivre ou de créer des utopies ».
Mais alors, est-ce que finalement, parce que tu évoquais Malville, où effectivement, il y avait, moi j'étais présent, et il y avait beaucoup d'antinucléaires allemands qui étaient là, et qui a soulevé effectivement beaucoup de monde, mais le soufflet est un peu retombé. Et donc,
notamment des communistes, il y avait. Oui, mais, des communistes allemands.
Il y avait vraiment, mais je me rappelle, il y avait même des indépendantistes savoyards. C'est-à-dire, au fond, puisque c'était en Savoie, qui prêchaient presque pour revenir à l'époque de Napoléon III où la Savoie était sous la domination du Piémont. Effectivement, c'était extrêmement varié comme mouvement et comme manifestation. Mais pour revenir sur un autre point, quand Gérard disait en France c'est très centralisé, en Allemagne ça l'est moins. Mais est-ce que finalement, même si ça existe, cette moindre centralisation en Allemagne, c'est au plan des États, mais au plan des multinationales. Parce que je lisais il y a pas longtemps, je sais pas si elle est allemande, mais il y a une multinationale qui s'appelle E.ON. Mmh. Et qui, oui, apparemment, a décidé de... Puisqu'au fond, les programmes sont arrêtés en Allemagne, qui a décidé de se lancer dans la construction d'autres centrales nucléaires dans d'autres pays d'Europe.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il existe toujours cette industrie qui est mise, comme toujours en Allemagne, très 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 fort sur l'export. Et eux, ils se gênent pas quand on construit pas en Allemagne, parce qu'ils font de l'export de technologie, de tout ça. Siemens en Afrique du Sud, par exemple, E.ON dans des autres pays. Et c'est un peu même comme l'industrie de vente des armes. C'est aussi très fort encore en Allemagne. Il y a encore beaucoup à faire.
Alors donc, il y a une question philosophique là et anarchiste. Moi, mon sentiment, c'est que la bataille anti-nucléaire ne peut pas être dissociée de la bataille anti-capitaliste, anti-mondialisation, parce que effectivement, si un pays comme la France devenait autogestionnaire ou comme l'Allemagne devenait entraînement antinucléaire, est-ce que le fait de vivre dans un monde qui finalement développerait de plus en plus des méthodes industrielles et commerciales capitalistes et d'autre part sur ce plan-là, sur le plan nucléaire, des centrales nucléaires de plus en plus nombreuses, est-ce que finalement, à un certain moment, on ne serait pas étouffé?
Ah oui, bien sûr, hein? Bien sûr. Je soutiens ça. C'est un combat lié. Et là, il y a, comme j'avais dit, en Allemagne, la grande faiblesse que le mouvement ouvrier est pratiquement complètement intégré au système et aussi le mouvement écologiste, le mouvement libertaire, bien sûr, il est anticapitaliste. Mais le grand mouvement antinucléaire ne pense pas vraiment trop à l'anticapitalisme, ça c'est
un problème. Alors justement, c'est un point important parce que par rapport à l'Allemagne et le projet de sortie du nucléaire, donc tu disais c'est à peu près une dizaine d'années, il y a un point qu'on a déjà soulevé dans cette émission, c'est comme par rapport à la catastrophe de Fukushima. On a souvent dit que le nucléaire, dans sa dangerosité, bien, puisqu'on parle du système capitaliste, il est quelquefois généreux, puisqu'il n'a pas de frontières. Et c'est-à-dire, quand il y a un accident nucléaire, eh bien, ça recouvre l'ensemble de la planète. Alors, on se souvient évidemment de l'accident majeur, la catastrophe de Tchernobyl. Là, à nouveau, évidemment, où il y a eu une sorte d'omerta, puisqu'on n'en parle pas beaucoup, on va peut-être le rappeler tout à l'heure, le 11 mars, un an, hein, pour Fukushima, où des humoristes ont dit « on va fêter ça avec une bougie ». Le nucléaire et la bougie, hein, puisque c'est une catastrophe. Et alors, la question fondamentale, c'est de dire, oui, s'il y a quelques pays d'Europe qui abandonnent le nucléaire, si la France n'abandonne pas le nucléaire, et au contraire, on apprend qu'il y a des projets on parle de centrales nucléaires de quatrième génération.
Ah oui, c'est avec, dans le canard enchaîné.
Voilà, avec,
oui.
avec des projets, justement, puisque on parlait tout à l'heure de Crémalville, hein, du surgénérateur, où on reviendrait aussi à cette avec un cas au-delà de l'uranium du minerai mais d'un élément extrêmement dangereux comme le plutonium, donc de dire bien l'Allemagne, l'Italie, éventuellement la Suisse arrête le nucléaire mais pas la France. Un accident comme on l'a rappelé exactement des plus dangereux par rapport à un site des plus dangereux comme la Hague, un accident en France évidemment, eh bien envahirait l'ensemble de l'Europe. Et ça, on l'a souvent posé, c'est une question fondamentale, mais il y a une perception par rapport à des gens, à une perception nationale, hein, de dire, nous, dans notre pays, nos frontières sont étanches, on va abandonner le nucléaire, c'est formidable, mais les Français, juste de l'autre côté de la frontière, et en particulier si Fessenheim extrêmement dangereux pète, ouais. Eh bien, l'Allemagne, à son tour, en prendra évidemment plein la tête. Et ça, c'est une question importante, justement, ouais. à soulever, parce qu'on en parle peu.
Oui, c'est aussi une question transnationale. Bien sûr, c'est un sujet transnational qui implique tous les pays qui est une question planétaire. Et là, il y a, un vrai dire, un combat qui n'est pas encore décidé. Il y a des pays, l'Autriche aussi d'ailleurs, qui ont déjà abandonné le nucléaire en Europe. Et il y a des pays qui mènent des nouveaux programmes, même après Fukushima. Mais ça peut changer aussi. Au Japon, par exemple, c'était un pays et aussi une population, une grande majorité en faveur de nucléaire avant Fukushima.
Oui, voilà,
et
oui.
Ça a fortement changé.
Oui.
Ça n'a pas encore coupé programme,
alors,
mais ça a fortement changé.
C'est ce que
changé.
Je te dis avec la distance, que là, on pourrait, puisque maintenant, récemment, on a dit que un accident majeur, ça y est, hein, on est rentré pour la France de dire c'est possible, hein, puisqu'à un moment c'était impossible, c'est possible. Si ça arrivait, évidemment, on pourrait dire que ça créait des tensions extraordinairement fortes, hein, peut-être d'affrontements entre les pays. Et je pense que l'on parle de, justement de l'alliance franco-allemande par rapport à ça, hein, évidemment, ce que ça veut dire. Eh bien, on pourrait un accident majeur, et c'est ça, on ne soulève pas ce point-là en France, raviverait des tensions extrêmement grandes entre les pays. Oui, voilà, oui, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de nucléaire militaire. Mais il y a derrière ça le militaire. Voilà.
Mais est-ce que, indépendamment de ça, donc on peut dire, premièrement, le nucléaire ne peut pas être dissocié d'un modèle économique et politique différent, c'est-à-dire de la mise ou pas du système capitaliste qui est fondé sur, en effet, un développement permanent de la croissance et des profits. On n'entend pas une seule fois quelqu'un dans les hommes politiques critiquer le mot de croissance. Et il y en a plusieurs qui ont utilisé cette expression-là. Je pense que c'est bien, c'est non seulement une idéologie différente, ça n'est plus l'idéologie capitaliste qui peut faire avancer la cause antinucléaire, mais à l'intérieur d'une nouvelle façon de fonctionner, c'est bien ce qu'on a appelé la décroissance, ou en tout cas un mode de vie, un mode d'existence qui soit complètement différent. Et c'est peut-être un peu ça qui fait que les populations se mettent la tête dans le sable et se disent, mais si nous on manque d'électricité, eh bien tout est foutu. Dans le Canard enchaîné, on peut lire avec ce que disait Gérard, la quatrième génération de centrales nucléaires, on en a pour 5000 ans d'autonomie énergétique. On en a pour 5000 ans de... Alors quand on voit des discours de ce genre, celui de Michel Rocard, qui évidemment a perdu complètement les pédales et qui dit que si on utilisait le mot décroissance et que si on voulait en effet vivre autrement et utiliser un peu moins d'énergie, essayer d'avoir une organisation économique et sociale complètement différente, ce serait la guerre civile. Mmh. Il utilise ça, la guerre civile en France.
Et la connerie d'abandonner le programme nucléaire.
Oui,
et
bah,
l'a dit
bien sûr,
précédemment.
Bien sûr. Donc, effectivement, cette façon de ne pas insister sur le fait que, en effet, le nucléaire est dangereux, c'est la bombe, c'est une société militaire, c'est l'irradiation, etc. Mais en même temps, de ne pas proposer, tout à l'heure tu parlais d'utopie, de proposer une utopie réaliste en disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas à poser sur la table, en effet, d'autres modes d'existence des sociétés?
Oui, bien sûr. Mais on peut en arriver parce que bon, c'est encore un long débat et malheureusement, même pour les choses qui sont déjà atteintes au point de vue de mouvement émancipatrice, c'était pas venu sans les accidents comme Tchernobyl ou Fukushima, et malheureusement les pouvoirs dans beaucoup de pays mis encore sur le nucléaire, donc ils vont venir presque avec garantie encore des autres accidents. C'est il y a un progrès, il y a plus, même en France il y a plus un nuage de Tchernobyl qui s'arrête exactement dans la frontière.
C'est ce qu'on a dit, l'importance des frontières.
Mais il faut encore beaucoup plus, il faut une critique de la croissance qui existe dans le mouvement écologiste depuis son début, qui était une fois beaucoup plus fort, une fois plus faible, parce qu'il y a aussi dans la gestion, tu as évoqué le fédéralisme d'en haut en bas en Allemagne, mais qui est quand même pas aussi centraliste qu'en France. Même quand le programme est central, c'est seulement les forces de répression, les polices, qui sont plutôt gérées par les Länder. Là, on peut dire, par exemple, il y a aussi une gestion capitaliste moins dure, on peut dire, en Allemagne. Il y a avec le temps, et ça, c'est déjà une expérience, comment ils ont géré les syndicats, ils ont dit le capitalisme fonctionne bien quand il n'y a pas des freins sociaux, des mouvements sociaux qui le menacent. Et ça, c'est une pensée de répression qui dit aussi, bon, quand le conflit social phare en Allemagne depuis 40 ans, c'est le nucléaire, on arrête, mais on continue le capitalisme plus fluide. Ça va plus facile avec ça. Et ça, c'est une culture d'éviter les conflits sociaux qui n'est pas encore assez développée en France. Là, Sarko, il va à Fessenheim et il dit, mais comment pouvez-vous avoir une idée comme ça? On va continuer comme ça. Même, par exemple, l'aile du pouvoir social-démocrate dans les années 90 en Allemagne, c'était le parti phare du nucléaire. Les chanceliers, là.
Juste, je voulais te dire, par rapport à l'Allemagne, enfin, ça, c'est évoqué, cette situation, comme on parle d'énergie alternative, là aussi, avec le nucléaire, l'énergie centralisée, très centralisée, et donc des énergies alternatives nouvelles, décentralisées. Alors là, on voit aussi le système capitaliste qui recentralise, hein, quelquefois, avec des éoliennes d'une capacité énorme, importante, oui. Alors qu'on pourrait
c'est
faire...
Conçu voilà. Industriellement,
c'est ça.
C'est pas nécessaire. On peut le c'est décentraliser.
Ça. Alors l'idée est là,
au
voilà.
Au niveau municipal même.
Comme le recentraliser le solaire, ce qui est une stupidité monstrueuse. Donc ça a été évoqué. On a évoqué ça, ce plan-là, c'est-à-dire qu'une énergie, des énergies renouvelables, des énergies alternatives décentralisées et donc des petites unités et revenir à quelque chose de petit, de small comme on dit, et pas et décentralisé, et ça c'est important, mais on le voit, on l'observe quand même, comme tu disais, le capitalisme est là, il y a quand même des gros appareils pour les énergies alternatives qui sont mis en place, en particulier en Allemagne, tu l'évoquais peut-être avec les éoliennes, hein, c'est-à-dire, voilà.
À Bure, il y a longtemps, c'est gigantesque les travaux qu'ils sont en train de faire pour enterrer des déchets dont on ne sait pas du tout si finalement ils perdront leur nocivité, mais pour amadouer les populations et pour faire croire que finalement tout va bien dans le meilleur des mondes nucléaires, ils ont construit un groupe d'éoliennes fantastique. EDF a construit des éoliennes dans le même secteur pour dire, vous voyez, nous, on est quand même pour les énergies nouvelles, mais ça devient une espèce de caution pour maintenir le nucléaire.
Oui, c'est même chose en Allemagne. Ils veulent produire autant de l'énergie comme auparavant,
voilà,
avec des énergies renouvelables.
Oui, oui.
Il y a une planification de grandes traces d'électricité de la mer du Nord jusqu'au sud de l'Allemagne.
Oui, c'est ça. Ça, alors la question, justement, donc peut-être, je sais pas, on rappelle,
une petite pause.
Et vous l'avez dit peut-être au début, si on revient pas sur ça, parce qu'il n'y a pas tellement d'informations sur les manifestations, je sais pas si vous en avez parlé au début.
Non, on n'en a pas parlé, non.
Non, alors juste un point quand même de dire, les grandes manifestations, il y en aura internationales.
Ouais.
La France, c'est un peu rikiki, enfin bon, pour le moment, il faut aller donc sur Internet pour voir les informations. Les journaux, même différents, ne font pas une information importante. Hein. Alors, on rappelle pour la manifestation qui aura lieu entre Lyon et Avignon, une des plus importantes, celle-là.
Chaîne.
Oui, mais enfin, là aussi, j'aurais quelque chose peut-être à dire, le côté chaîne humaine.
Ouais.
Mais enfin, bon, c'est gentil.
Ouais.
C'est, nous sommes, si tous les gars du monde, et on oublie les femmes, aujourd'hui, journée de la femme, vous laisse donner la main. Alors aussi, cet aspect-là, en tout cas, il y en a en Bretagne, importante, hein, je pense qu'il y en aura
à Plogoff,
ou il y en aura à La Hague aussi. Et puis, peut-être à Bordeaux, allez voir donc sur les sites, en particulier Sortir du Nucléaire. Et alors, puisqu'on est en Ile-de-France, le dire, à Paris, il y a un rassemblement manifestation qui est prévu à 15h, place de l'Hôtel de Ville, donc à Paris, avec aussi des possibilités d'intervention. Et ça, c'est dimanche prochain. Donc dimanche prochain, il faut le dire pourquoi, Jacques, dimanche en plus, puisque je vous apprends rien, c'est le 11 mars. Hein. Donc ça fait juste un an. Et il y a peu, là peut-être, je ne sais pas, pour d'autres groupes, et tant mieux, il faut aller chercher l'information, sur le plan international, voir pays par pays, comment par rapport à cette importance de manifestation par rapport à Fukushima, en le rappelant justement le mensonge encore à nouveau de Fukushima et les estimations, parce qu'on est dit pour faire peur, mais c'est la réalité. On estime qu'on aurait pu déplacer une partie importante de la population du nord du Japon pour Fukushima, et des estimations sont faites, parce que le nucléaire ça tue pas forcément tout de suite, sur 10 ou 20 ans, hein, c'est comme l'amiante, souvenons-nous, c'était sans danger. Maintenant on parle de centaines de milliers de gens qui vont en crever, et bien là on est, il y a des estimations de fait de 1 million de personnes qui pourraient décéder dans un espace de 10 à 20 ans, voilà, directement et pas indirectement, par rapport à la catastrophe de Fukushima, et simplement vous dire que l'énergie nucléaire, malgré évidemment toute la propagande, eh bien ce n'est pas une énergie comme les autres, et par rapport au nombre de morts, puisqu'on dit souvent dans le pétrole, on nous parle du charbon, des mines de charbon, regardons Tchernobyl, hein, Tchernobyl, le nombre de victimes, c'est plus d'un million, sinon directement morts, mais le nombre de gens qui ont été contaminés, là aussi on n'en parle pas, et pour Fukushima, donc voilà le véritable danger dans lequel nous sommes, et en France on peut voir que la propagande, c'est-à-dire ne rien dire, hein, c'est-à-dire ne quasiment pas en parler, c'est absolument dans les débats, absolument insignifiant, mais c'est fait que pour ça des présidentielles, rien n'est évoqué, et le mouvement vert en France est totalement au tapis, donc ça c'est grave, et Jacques, on essaie de l'exprimer.
On a dit qu'en Allemagne le mouvement vert aussi était très très, j'allais dire réformiste, mais peu peu. C'est nous notre idée pour la France en tout cas, c'est que, enfin moi j'ai constaté ça au fur et à mesure du déroulement de la bataille en nucléaire depuis Fessenheim, c'est que il y a incompatibilité entre, et ça tient peut-être même au fait qu'on est dans une société capitaliste, il y a incompatibilité entre le mode d'action politique au sens politicien du mot, c'est-à-dire dès qu'un écologiste entre guillemets se met à entrer dans la logique du parti, dans la logique du réalisme, dans la logique du prise de pouvoir d'une façon qui est nécessairement dangereuse, et en tout cas qui risque très vite d'être de provoquer une perversion de son idéal. Eh bien, et on l'a constaté en France, tous les chefs politiques qui se sont lancés dans l'écologie, dans l'antinucléaire, ou bien ont trahi purement et simplement, ou bien ont tout fait, et on le voit encore dans la période qu'on vit aujourd'hui, quand on voit le mouvement écologique français avec Madame Duflot qui va abandonner carrément la position définitive de l'antinucléaire, qui va dire mais oui, finalement vous pouvez continuer à faire votre PR à Flamanville, c'est pas
troquer des sièges, contre des réacteurs.
Moment que vous nous donnez des sièges de députés. Oui, oui. Alors effectivement, on se demande dans cette configuration, comment arriver à ce que, c'est un petit peu comme le mouvement ouvrier allemand ou français qui est déconnecté et finalement de sa bureaucratie, eh bien on peut se demander comment les antinucléaires réagiront, enfin ceux qui sont vraiment pénétrés de cette idée qu'il faut en finir avec ce danger mortel, et qui n'est pas seulement un danger même mortel, parce que l'irradiation c'est aussi l'irradiation des cerveaux au sens du décervelage, ça veut dire qu'effectivement on accepte, on dit ah bah oui, on peut pas faire autrement, faut bien que je puisse allumer la lumière, donc
les neurones radioactifs. Enfin, voilà, les neurones radioactivité.
C'est vrai que là, on se rend compte que les relais, au fond, pour la bataille antinucléaire, oui. ne peuvent pas être des relais politiciens. Oui. Qu'est-ce que t'en penses?
Voilà, Lou Marin.
Juste la réponse.
Lou Marin.
Un mot.
Oui. Pour conclure.
Voilà. Oui,
quand tu parles mouvement vert en Allemagne, moi je dirais il n'existe pas un mouvement vert. Il existe le mouvement antinucléaire et le parti de vert.
Oui.
Et ça reste séparé depuis longtemps.
Oui, t'as raison.
Et il y avait une forte critique, par exemple, de notre part, courant anarchiste non-violent, parce que longtemps, les Verts se revendiquaient non-violentes. Mmh. On a dit non, vous êtes jamais, dès que vous rentrez au système parlementaire, vous n'êtes plus, vous pouvez être non-violente, parce que vous participez dans un institut qui donne des moyens à de militaires, à de police et tout ça. Et aussi, ils ont maintenu ce point de programme jusqu'ils ont envoyé des bombes sur la Yougoslavie. Et puis, bon, ils ont même arrêté eux-mêmes leur point d'être non-violent. Donc, c'est clair que les Verts sont complètement décalés de mouvement. Et même après qu'ils ont maintenant chuté de gouvernement, ils voulaient se mêler et s'emparer encore du mouvement de Fukushima. Et là, on a fait de la propagande réussie que on n'a pas des orateurs dans les manifestations qui viennent du parti de Vert. Donc, ils voulaient parler, c'est un peu une autre culture de manifestation en Allemagne qu'en France. En France, on a la manifestation et chacun se montre pendant la manifestation. En Allemagne, c'est très important. Il y a une fin de manifestation et là, chacun des organisateurs ou choses comme ça a la parole. On fait une déclaration. Et là, après Fukushima, presque tout le mouvement nucléaire a interdit à des porte-paroles des Verts politiques de prendre la parole. Ça, c'est très important.
Très bien. Voilà, bon, on va faire une petite pause. Alors, on va écouter Marc Havé, Entre deux guerres, puisque tu évoquais ce truc-là, Gérard.
Et puis, j'ose y rappeler pour Lou Marin, donc la deuxième partie, là.
Donc oui, la deuxième partie, ben on va...
Alors Albert Camus, voilà, et les libertaires.
Albert Camus, on va...
Comme annoncé dans Le Monde libertaire de ce jour.
Entre deux guerres, que faire quand le deuil a fait son temps? Entre deux guerres, que faire entre nous pour passer le temps? On se raconte la dernière, les grands exploits militaires, le jour du débarquement. Le soulèvement populaire et la fibre cocardière, on est tous des résistants. On fête les anniversaires de cette boucherie sanguinaire et la victoire en chantant. On regarde dans le sperme les tibias de nos grands-pères qui sont morts en combattant. Entre deux guerres, que faire entre nous pour passer le temps? Entre deux guerres, que faire? L'amour, mais c'est épuisant. Aller cueillir des primes vertes, tendre la joue à son frère, ça c'est pas très excitant. Et les aides humanitaires pour soulager la misère, c'est beau mais pas très marrant. Pour se distraire, on préfère plutôt qu'un documentaire et plein de bons sentiments. Une belle histoire de gangsters ou de vampires mortifères, noyés de larmes et de sang. Entre deux guerres, que faire? Entre deux pour tuer le temps. Entre deux guerres, que faire? On passe les heures en se tapant. Une petite bière légère, entre deux bières, que faire? On se massacre au poker ou bien entre supporters, on est toujours les gagnants. On crève de rage quand on perd, on lance les canettes de bière, on en siffle une en passant. On se tue pour sa carrière, on démolit son confrère pour avoir de l'avancement. On saute sur la secrétaire, à l'endroit, à l'envers, on est toujours partant. À l'amour comme à la guerre, de même on s'attrape, on se prend. On écrase son partenaire jusqu'à ce qu'il soit suffocant. On enterre la rage de guerre, on rend les armes, on espère. Et comme pour bien des amants, y a pas que des hommes à la guerre, y a des femmes tortionnaires qui aiment leurs chiens, leurs enfants. Entre deux guerres, que faire? On surfe sur l'air du temps. Entre deux guerres, que faire? On récupère, on attend. On entretient les cimetières, on achète un revolver que l'on astique en rêvant. Et quand il y a du gaz dans l'air, non, on va pas se laisser faire, on va leur rentrer dedans. Tant pis si ça doit faire quelque effet secondaire, on fera proprement. Une guerre éclair salutaire, promis ce sera la dernière de tous les temps. temps. Entre deux guerres, que faire ?